Tous ces kilomètres nécessitaient beaucoup de carburant et permettaient donc d'obtenir beaucoup de cadeaux.
Transmission.
Histoire courte de Bruno Manuel.
Épisode 5, le plein de souvenirs, lu par Grégoire Manuel.
Un soir, ma mère me proposa une tisane qu'elle me servit dans une tasse qui me plongea instantanément dans les années 70. Mon père passait alors beaucoup de temps sur la route. Son entreprise l'envoyait dans tout le quart sud-est de la France chez des clients dont les installations étaient en panne, trop usées ou mal utilisées. Il y allait, analysait, comprenait, réparait, et tous ces kilomètres nécessitaient beaucoup de carburant et permettaient donc d'obtenir beaucoup de cadeaux. En effet, les compagnies pétrolières qui n'étaient pas encore touchées par le choc pétrolier de 1974 rivalisaient d'imagination pour fidéliser les clients. Antar, Shell, Esso, Fina, BP, Total ou Avia proposaient de la vaisselle, des figurines, des porte-clés, des jeux de plage. Mobil, elle, les séduisait avec de la vaisselle arcopale au design caractéristique des 70s. Des gros motifs floraux, orange et marron, ou bien bleu et vert. Le système était simple, un plein, un bon, 10 bons, un mug. Mon père se servait chez Mobil. Nous buvions donc café, chocolat chaud, thé et autres infusions dans ces mugs fleuris pendant de longues années. Et je buvais de nouveau dans une de ces tasses que nous n'appelions pas encore mug à l'époque. Mon père changeait de voiture tous les 2 ans. J'attendais ce moment avec une envie et un plaisir toujours augmenté par la surprise. Ce soir, où, au lieu de dénouer sa cravate et ôter la veste de son costume, il nous demandait de mettre nos chaussures et de le suivre. Nous nous entassions dans l'ascenseur et nous précipitions vers le parking pour découvrir sa nouvelle voiture. En cette année 1973, il venait d'acheter une Peugeot 504 Ti, l'une des plus belles voitures françaises. La sienne, qui allait devenir la nôtre, était vert foncé, d'une teinte franche qui lui donnait un air à la fois sérieux et moderne. Ce moment était une sorte de fête pour les sens. Au plaisir d'apprécier le confort des places arrière s'ajoutait la sensation stimulante procurée par l'odeur du neuf. Chaque marque avait son odeur, et celle-ci, caractéristique de Peugeot, était amplifiée par celle des sièges en cuir. J'ai beaucoup aimé cette voiture, qui nous a transportés sur les routes d'Europe, conduits au ski en hiver ou à Marseille pour Noël. Elle trônait sur le parking à côté d'une autre Peugeot, une 104 blanche, celle de mon grand-père. Il avait un rapport particulier avec ses automobiles. Il avait obtenu son permis de conduire dans les années 20, en allant simplement l'acheter dans un bureau spécialisé. Il n'avait ensuite jamais jugé utile de se renseigner sur les règles du code de la route, ni sur le contenu du guide de l'utilisateur livré avec ses voitures. Pour couronner le tout, il avait acquis au fil des années une surdité profonde qui créait une barrière infranchissable entre les signes d'agonie hurlés par l'embrayage de son cerveau, trop occupé à surveiller la circulation. On devinait qu'il venait juste de se garer grâce à l'odeur qui s'échappait du capot, une odeur de mort mécanique, de pièces usées à la limite de la rupture. À chacun de ses déplacements, on se penchait à la fenêtre pour vérifier qu'il avait réussi à partir, et on guettait son retour en espérant que la carrosserie n'avait pas trop souffert de sa conduite pour le moins empirique. L'autonomie des personnes âgées passe parfois par cette maîtrise approximative des outils censés garantir leur liberté. Je me souviens aussi d'Edmond, fils d'un opticien réputé de la grande ville voisine. Il venait d'arriver dans notre immeuble avec sa famille. Il représentait tout ce que nous n'étions pas, grand, beau et riche, et surtout affichant en permanence une sorte d'insouciance qui pouvait passer pour du mépris. Il avait convenu, avec son expert comptable, qu'en changeant de voiture tous les 6 mois, il perdrait beaucoup moins d'argent qu'en la conservant plus longtemps. Ainsi donc, notre plaisir d'adolescent était de surveiller régulièrement le parking pour voir quelle serait la nouvelle acquisition d'Edmond. Cet homme élégant ne roulait pas dans la même voiture que le commun des mortels. On vit donc passer des Alfa Romeo, des Opel, et même une BMW 2002 Touring Orange qui ne garda que quelques semaines. C'est un peu grâce à lui que ma culture automobile se forgea. C'est aussi l'époque de l'abonnement au magazine Sport Auto offert par mon oncle Michel, qui me faisait chaque mois rêver avec les plus belles voitures du monde, les photos des voitures de course, des pilotes et de leurs trophées. En vacances, il arrivait à mon père de faire le plein dans une station Elf. Dans ce contexte concurrentiel, Elf se distinguait en offrant des photos de 21 par 30 cm cartonnées, entièrement à la gloire de la marque, alors très investie dans la compétition automobile. On y voyait Jackie Stewart avec son casque blanc orné d'une bande écossaise. Henri Pescarolo et son casque vert répété comme à l'infini en un montage plein d'énergie. François Sever et son regard magnétique. Patrick Depailler, l'alpine incendie qui régnait sur les rallyes. Les Matra qui brillaient aux 24 heures du Mans et en F1. Le circuit de Spa-Francorchamps et son tracé mythique. Et même l'équipe de pilotes d'Elf avec des autographes que je croyais faits spécialement pour moi. Le dos de chaque carte était couvert d'informations sur la biographie et le palmarès des pilotes. Sur les caractéristiques des circuits, les performances des bolides. Enfin bref, tout ce qui allait constituer mon panthéon du sport auto était disponible dans les stations Elf, pour peu qu'on y fasse le plein. Mon père s'y arrêtait rarement et ma collection était donc plutôt maigre. C'est alors qu'intervint une voisine de palier qui habitait avec sa famille tout au bout du couloir. Elle ne savait pas grand-chose d'elle ni de son mari. Nous apprîmes plus tard qu'elle était belge, ancienne secrétaire du Premier ministre et lui roumain, ingénieur chez Elf. Elle avait dû lui glisser que j'aimais les voitures de course. Que c'est avec une discrétion, une délicatesse incroyable que ce voisin roumain, que je ne voyais presque jamais, m'a laissé le plus beau cadeau de mon adolescence. Le matin, en partant au collège, je trouvais souvent sur le paillasson une enveloppe avec une ou plusieurs de ses photos. Elles sont mystérieusement ressorties du carton où elle dormait depuis de longues années, en compagnie de brevets de natation, couvertures de magazines, séries de timbres et dessins d'adolescents. Cette collection, que j'imaginais complète, présentait quelques trous. Et Internet m'a permis de découvrir que la série comptait 32 images, et que certaines qui me manquaient étaient disponibles pour quelques euros. Certaines restent introuvables, et ma collection sera à jamais incomplète. Mais peu importe, elle constitue le socle de ce que je sais des voitures de course, des pilotes, des F1, des protos d'endurance, des circuits mythiques où je rêve encore parfois de rouler un jour.